à Voigny. Cette semaine, Guillaume Erner rencontre Jean-Claude Michéa. Ce soir, devenir un auteur par accident.
Jean-Claude Michéa, on se retrouve pour notre quatrième entretien. Je rappelle que vous avez été professeur de philo au lycée à Montpellier avant de devenir à 45 ans philosophe ou en tout cas auteur. Et vous m'avez plusieurs fois dit avant, je n'étais pas auteur même si j'écrivais, parce que c'est pas parce que on fait des déménagements qu'on est déménageur. Alors, malgré tout, vous avez aujourd'hui écrit 12 livres, c'est donc que vous êtes un auteur, et il va falloir nous dire pourquoi vous êtes tout d'abord devenu auteur en partant d'Orwell. Alors, pas les circonstances, ça, vous les avez racontées dans le troisième épisode, mais finalement, qu'est-ce qui attirait un communiste, un ancien membre du PCF, dans la lecture d'Orwell?
Fin des années 70, c'est là où tout se joue en France, et même à l'échelle européenne, parce que c'est la nouvelle philosophie, c'est le moment où, pour la première fois à l'intérieur de la gauche, l'Union soviétique perd définitivement son aura. Il y avait bien eu la période maoïste, mais on s'était replié sur la base cubaine, la base chinoise. Là, c'est le système communiste tel qu'il est issu de 1917 qui s'effondre. Et là, on voit par centaines les intellectuels de gauche de la période précédente se goupiliser, hein, au sens de Romain Goupil, ou ce Bernard-Henri Lévisé, passer avec armes et bagages du côté du libéralisme. Nous l'avons tant aimé la révolution, il est temps de devenir adulte. On va se réconcilier avec le monde libéral qui est là. Et je crois que si je n'avais été que militant à l'intérieur du Parti communiste, tout en gardant la fidélité à ce qu'il y a de familial dans cette histoire, je crois que j'aurais pu suivre le mouvement comme n'importe quel mouton. Mais je vous l'avais dit aussi, dans les années 70, je découvre à Montpellier, en étant en relation avec des copains du milieu anarchiste, Debord. Et Debord, c'est un tel souffle d'air frais. C'est une utilisation des catégories du Capital et de Marx pour étudier le monde où nous vivons, mais qui est extraordinairement parlante, qui n'est plus du tout un catéchisme qu'on récite, mais qui éclaire la société du spectacle, tout ce qui se passe dans notre vie. Debord l'éclaire au sens où Tati, hein, éclaire de la même manière l'époque, ou Sempé éclaire l'époque, c'est-à-dire que vous êtes dans le métro, ces jours-ci, je vois, je l'avais dit hier, les gens, le regard vide, les écouteurs fixés, chacun dans sa bulle, et je pense à Debord, la critique de la séparation, et je comprends que lorsqu'il critique le capitalisme, c'est pas une critique d'idéologue, c'est une critique qui éclaire le vécu. Et à partir de là, j'ai tellement accepté cette critique que quand le système totalitaire s'effondre, je reprends à mon compte la totalité des critiques du totalitarisme, mais je peux pas quitter, dire « bye bye Lénine », je peux pas le faire comme le fait la plupart du troupeau, c'est-à-dire en jetant aux orties la tradition socialiste, au sens où Foucault, en 1977, dit « il n'y a rien à retenir de bon dans toute la tradition socialiste ». C'est Debord qui fonctionne comme une sorte de dispositif de sécurité, qui dit « bon, le problème maintenant est nouveau, comment continuer à critiquer ce monde dans lequel je vis et qui m'apparaît comme un monde injuste, aliénant, autodestructeur, sans pour autant réactiver à la façon Badiou la croyance aux vieilles lunes de la révolution léniniste par en haut. Et à ce moment-là, Orwell s'impose de lui-même, à condition qu'on lise Orwell, non pas comme on le lisait à l'époque à partir de 1984 et Animal Farm, de chefs-d'œuvre, mais qu'on lisait très mal. On n'y voyait qu'une critique de l'Union soviétique, alors que c'était inséparable chez Orwell de sa critique du monde capitaliste parallèle, mais qui était dans les essais. Et à partir de cette époque, je me plonge dans les essais d'Orwell, et d'une certaine manière, c'est comme ça que j'ai trouvé ma voie.
Qu'est-ce que vous y trouvez dans les essais d'Orwell, Jean-Claude Michéa?
D'abord, on trouve un style qui est assez rare en France. Même Camus, qui aurait quelques rapports avec Orwell, écrit toujours dans un style qui sent quand même encore l'école et l'académie. C'est un style magnifique, mais on sent qu'il a été formé dans la tradition intellectuelle française. Orwell, c'est un esprit libre, c'est un... C'est Oscar Wilde, c'est... Il a une écriture qui est totalement celle d'un esprit libre. C'est-à-dire quelqu'un qui, quand il prend la plume, c'est pas pour défendre une ligne politique, mais pour analyser le monde tel qu'il est. Et si, pour analyser le monde tel que je l'ai sous les yeux, je dois prendre mes distances avec la ligne politique, ça ne pose aucun problème. Simon Leys comparait Orwell à ces moines, ces vrais moines qui, dans l'hiver, pour réchauffer le couvent, n'hésitaient pas à faire du petit bois avec les crucifixes et les idoles saintes. Et Orwell, c'est ça.
Mais alors, justement, parce que Simon Leys, pour ceux qui ne le connaissent pas, ça n'est pas n'importe qui dans l'histoire du communisme et même de l'anticommunisme, puisque c'est lui, ce sinologue, qui, la première fois, a dénoncé non seulement les crimes de Mao, mais aussi la supercherie du maoïsme. Donc, c'est quand même assez paradoxal, Jean-Claude Michéa, parce que vous vous retrouvez, vous, communiste, sans avoir renié, si vous n'avez pas le même trajet que Glucksmann, par exemple, vous vous retrouvez à demeurer de gauche par le biais de deux critiques. Alors, l'un à moitié, l'autre complètement, du communisme.
Bah, songez déjà au paradoxe suivant. Le livre de Simon Leys qui paraît en 71, Les habits neufs du président Mao. Habits neufs, allusion au conte d'Andersen qui est magnifique sur l'idéologie. Hein. C'est le roi est nu, seul l'enfant le dit, mais tout le monde le voit habillé parce qu'on doit le voir habillé. C'est un texte sur le politiquement correct incroyable. Les habits neufs du président Mao sortent en 71. Mais qui les édite? Champ libre, à la demande de Debord et des situationnistes. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, en 1966, dans l'international situationniste, il y avait eu les premiers textes qui, dès le début de la révolution culturelle, la démystifient. Et ces textes étaient signés Guy Debord et René Viennet, qui sera un grand sinologue, dont la carrière, d'ailleurs, c'est assez étrange, parce qu'il deviendra, lui, tout en gardant quelque chose de très situationniste, un des grands hommes d'affaires du capitalisme français à Hong Kong, à Taïwan. Mais quelqu'un d'extraordinairement étrange, cultivé et érudit. Donc je ne vois pas la voie de bord. Hein, quand vous prenez la... À un moment, faut quitter la ligne station Lénine jusqu'à Georges Marchais.
D'accord.
Qu'il faut prendre la correspondance. Soit vous prenez la correspondance direction Nouvelle Philosophie, Glucksmann, BHL et autres, et vous vous retrouvez dans les parages du MEDEF un jour ou l'autre. Soit j'ai l'idée, mais on est très peu à l'époque, je vois la station Orwell, la ligne Orwell, Debord et autres, qui permettent d'aller dans une toute autre direction, c'est-à-dire de dire bye-bye Lénine, sans dire pour autant réconcilions-nous Folleville avec le capitaliste tel qu'il est.
Alors attendez, on va explorer les deux lignes. La première ligne, donc, c'est bye-bye Lénine. Qu'est-ce qui, selon Orwell, et là il se met surtout selon Jean-Claude Michéa, n'a pas fonctionné, si j'ose utiliser ce verbe, dans le communisme?
Alors, on va essayer d'être le plus simple et le plus rapide possible. Dans le socialisme du 19e siècle, et notamment dans l'œuvre de Marx, il y a en réalité, c'est un millefeuille, il y a plusieurs niveaux. Marx produit dans le Capital une critique de la logique du capitalisme qui est sans égale et qui devient chaque jour de plus en plus vraie. C'est-à-dire notamment, on comprend que le capitalisme, c'est un système qui est exponentiel, qui se développe de plus en plus, qui va envahir l'ensemble de la planète, toutes les sphères de notre vie. Et notamment quand on regarde la crise de 2008, brusquement des gens à Wall Street, à la City de Londres, des hauts financiers vont dire « mais il faut relire le Capital, même nous en tant que capitalistes ». Ça nous intéresse beaucoup plus que nos propres économistes. J'ai des témoignages personnels sur cette chose à Wall Street et en Angleterre qui sont assez extraordinaires. Ça, être socialiste pour moi, c'est donc critiquer ce mouvement qui va noyer dans les eaux du calcul égoïste la totalité du monde et de notre vie. Mais une fois que vous avez fait l'analyse du capitalisme, ça vous dit rien sur la manière d'en sortir et quel type de société mettre à la place. Et c'est là qu'au 19e siècle, il y a la grande différence entre les socialistes à sensibilité anarchisante de Proudhon, Bakounine, Kropotkine, etc. et le socialisme dont Marx est le héros et qui se fonde sur une seconde idée de Marx, le matérialisme historique, qui me paraît être par contre la plus dangereuse. C'est la fameuse théorie des stades, emprunté à l'évolutionnisme du 19e siècle, qu'on retrouve en ethnologie partout à l'époque, et qui dit, dans l'histoire de l'humanité, Le capitalisme représente une étape historiquement nécessaire et inéluctable. Il dort, la Silicon Valley dort en puissance dans la grotte de Lascaux. Dès que l'homme invente le feu, il y a un mouvement qui, un jour ou l'autre, l'amènera à Bill Gates. Et dans ce mouvement, que Marx d'ailleurs, grâce à sa rencontre aux populistes russes, avec les populistes russes dans la fin de sa vie, va commencer à nuancer et relativiser, mais enfin, le Marx de la maturité, celui auquel Lénine va s'accrocher, pense donc que le capitalisme est inévitable et qu'il a une mission historique, construire la base matérielle de la société socialiste future, centralisée, fondée sur la grande industrie, et qui, au fond, pousse à son terme logique la tendance du capitalisme à devenir une sorte d'immense usine planétaire, Lénine dira dans « L'État et la révolution », sous le socialisme, la société ne sera plus qu'un seul bureau et un seul atelier. Et évidemment, c'est cette lecture rendue possible par Marx et validée par Lénine qui va expliquer le cours des choses dans le mouvement communiste international. Un socialisme d'en haut, totalitaire, bureaucratique, et qui fait que n'importe qui connaît n'importe quelle hiérarchie, tout ce qui est décidé d'en haut, hein, quand vous êtes à l'observer d'en bas sur le terrain, les consignes, les normes européennes ne s'appliquent pas, les consignes du cadre supérieur, faut les remodifier. Rien ne marche quand c'est fait de manière du sommet de la pyramide vers la base. Donc on pouvait très bien continuer plus que jamais à devenir celui qui portait un regard critique sur le capitalisme jusqu'à ses métastases culturelles, juridiques et autres, sans avoir adhéré un seul instant à la thèse de la théorie des stades qui, en faisant du capitalisme la base du socialisme, au fond on pourrait dire le socialisme, stade suprême du capitalisme, dans la vision de Lénine, revenait à dire, eh bien, laissons les centrales nucléaires proliférer, c'est la base du communisme futur. Partout, des aéroports de Notre-Dame-des-Landes, c'est la base. Et tout le réseau autoroutier, avec évidemment cette illusion progressiste, plus le capitalisme avance, de toute façon, on le renverse pas encore, mais c'est pas grave, il fait le boulot pour nous. À la fin, comme disait Lénine, on n'aura plus qu'à planter le drapeau rouge sur le système. Même quelqu'un d'aussi intelligent que Zizek dit « Le réseau Internet, laissons-le proliférer. Au fond, c'est déjà le communisme qui est présent parmi nous. » Mais si vous cassez la théorie des stades, et donc aussi la théorie du progrès, d'un mouvement nécessaire de l'histoire qui va du petit au grand, vous arrivez à dire « Mais c'est pas parce que c'est plus grand que c'est forcément meilleur. » Et à ce moment-là, évidemment, je vais croiser Orwell et Christopher Lasch, le philosophe américain, parce que eux, leur critique, elle consiste à dire non au capitalisme, nous voulons une société différente, mais dans cette société différente, une fois qu'on n'adhère plus au mythe du progrès, que ce qui est nouveau, Monsanto, est meilleur que ce qu'avait avant l'agriculture paysanne traditionnelle, brusquement, un espace de lecture nouveau s'ouvre et je peux enfin porter un regard critique sur le monde tel qu'il est, en me posant, je termine là-dessus, la fameuse question d'Orwell, devant chaque pas en avant de la société dans laquelle nous vivons, pour l'accepter ce pas en avant, ou au contraire le condamner, on ne doit se poser qu'une seule question, dit Orwell, est-ce que ce pas en avant nous rend plus humains ou moins humains? Et alors là, l'esprit critique est totalement libéré.
Pourquoi être resté à gauche? Qu'est-ce que signifie le mot gauche pour vous? Est-ce qu'il fallait, de manière évidente pour vous, conserver cet attachement partisan, si, ou en tout cas cette bipolarité?
Mais là, je crois qu'il y a le même malentendu que sur mon prétendu conservatisme, au sens où je me serais défini comme conservateur, ce que je n'ai jamais fait. Je ne me réclame plus, depuis très longtemps, du signifiant gauche. C'est pour ça d'ailleurs que dans mes derniers livres, j'accorde une telle importance au mouvement de Podemos, du moins tel qu'il a commencé, parce qu'il est en train de prendre un virage que j'avais également prévu dans certaines analyses, quand il dit « Si l'on veut changer le monde tel qu'il est, il faut réunir ceux d'en bas contre ceux d'en haut. » Et dans tous les domaines, le football qui vous est si cher, je distinguerai le football amateur des clubs de village et le football professionnel qui est un autre monde surréaliste et indécent. Et donc, le clivage n'est plus, dit Podemos, entre gauche et droite. Ce qu'il faut entendre, ce n'est pas vrai qu'un banquier de gauche ou que Pierre Berger soit plus près d'une caissière ou d'un ouvrier de gauche. Le contraire, c'est que la caissière de gauche et l'ouvrier de gauche, est beaucoup plus près, au fond, sont plus près de la caissière de droite ou de l'ouvrier de droite ou de la caissière et de l'ouvrier qui s'abstiennent aux élections. Reste à les fédérer en essayant de leur expliquer que la souffrance qu'ils ressentent, on peut la traduire dans un nouveau langage qui nous dresse contre le capitalisme, mais que chacun pourra comprendre. Moi, je peux vous dire, dans ma vie quotidienne, chaque fois que je discute avec des gens des classes populaires de droite, c'est un de mes sports préférés, au bout de quelques temps, je leur donne envie de lire Marx. Des gens qui sont très, très marqués à droite. Donc moi, je me dis, je ne suis pas de gauche, je suis socialiste, anarchiste ou autre, avec notamment cet argument.
C'est pas la même chose. Vous le savez mieux que moi.
Oui, mais socialiste, alors ça, c'est anarchiste. C'est ma fameuse théorie sur la, au 19e siècle, le socialiste ne se réclamait pas de la gauche. Et si quelqu'un me rapporte un jour un texte de Marx ou d'Engels dans lequel il dit, je suis un homme de gauche, alors il a gagné l'euro-million. Il n'y a pas une seule fois Marx ne s'est réclamé de la gauche. Il a même des mots très durs pour, parce qu'à l'époque, la droite, c'est l'aristocratie et l'église. La gauche, c'est la république bourgeoise. C'est-à-dire les blancs et les bleus, et les socialistes sont les rouges, qui veulent bien appuyer la gauche dans son combat contre la réaction, mais aussitôt pour se tourner contre elle. On ne doit jamais oublier que le gouvernement qui écrase la commune, les Ferry, Fabre, Thiers, sont des républicains libéraux de gauche, et que les proscrits de la commune, réfugiés à Londres, diront « Versaillais de gauche et Versaillais de droite doivent être égaux devant la haine du peuple ». C'est à l'affaire Dreyfus qu'on change le mot. Donc, mais je vous accorde une chose, c'est que je renonce au nom de gauche parce que si je vais, bon, évidemment, si je vais à Paris 8, pour prendre l'exemple de mon université préférée, et que je dis nous sommes de gauche.
Qui est plutôt perçu comme une université de gauche, je le dis pour
voilà,
nos auditeurs.
Là, je suis presque obligé de dire que je suis resté de gauche pour être entendu. Parce que là-bas, l'esprit critique moderne ne peut pas entendre une parole différente. Mais quand je vais voir mes voisins éleveurs ou paysans, si je leur dis je suis de gauche, pour eux, gauche, ça veut dire quoi? C'est au mieux, les vieux partis, bon, on vote par nostalgie pour le radical du coin, le socialiste, mais ça, parce qu'ils n'ont rien à voir avec ceux de Paris. Et puis, être de gauche, pour eux, c'est l'artiste de Saint-Germain-des-Prés, le bobo du Marais, tout. Le mot gauche a changé de sens. Mais je me formule à moi-même une objection. Quand je me dis, je suis pas de gauche, je suis socialiste, je sais encore presque mieux que le mot socialiste est au moins aussi déconsidéré. Donc il faut changer, il faut trouver un autre mot.
Mais alors cependant, dans vos livres, il y en a au moins deux dont le titre porte explicitement sur la question de la gauche. Si je voulais vous embêter, Jean-Claude Michéa, je vous dirais que apparemment ce mot, vous ne l'oubliez pas si facilement. Vous avez l'air malgré tout de vouloir le penser. Est-ce que tout simplement vous ne considérez pas que ceux qui se considèrent à gauche, je pense notamment aux politiques, ne sont pas la vraie gauche?
Ah non, mais moi il me semble que dans aussi bien les mystères de la gauche et le peuple, je trace une ligne de démarcation très claire en disant la gauche du XXe siècle, celle qui est née au fond de l'affaire Dreyfus, c'était le produit d'un... C'était un alliage contradictoire entre l'ancienne gauche, le parti du progrès du mouvement républicaine bourgeoise du XIXe siècle, dont Hugo est le barde le plus génial, le progrès marche, etc., etc., et les rouges, la critique socialiste, et le socialisme et la gauche s'étaient alliés à partir des années 99, non sans problème, parce qu'à l'époque, Rosa Luxembourg, Jules Gay, de Lafargue condamnaient le ralliement des socialistes à la gauche. Il y a j'ai réédité ces jours-ci, j'ai fait rééditer La religion du capital de Lafargue, dont j'ai fait la préface, et dans lequel on voit Gued et Lafargue dit, si les socialistes s'allient avec la gauche, on peut s'allier avec elle de manière défensive. Mais si on devient de gauche, un jour ou l'autre, on renoncera au capitalisme. Ce qui, lui, aujourd'hui, est tout à fait révélateur. Donc moi, je me réclame pas de la gauche, je me réclame de la critique du capitalisme, mais comme je vous accorde qu'en même temps, il n'y a pas seulement le mot gauche, sauf dans les milieux intellectuels, où là, c'est un sésame pour sa carrière. C'est très important à dire, mais il y a une droite décomplexée, vous avez jamais vu un mouvement qui s'appelle la gauche décomplexée. Ça, c'est vraiment une parenthèse sur laquelle j'aime insister, parce que l'homme de gauche, Paris 8, Bobo, etc., se vit comme un rebelle qui met sa vie en danger chaque fois qu'il fait une tribune dans Le Monde ou dans Libération. Mais songez à cet exemple que j'avais donné dans mon précédent livre. Au Moyen-Âge, On peut concevoir quelqu'un qui est, au fond, athée. Peut-être Spinoza, peut-être d'autres, on ne sait pas vraiment. Mais pour pouvoir être entendu et surtout rester en vie, il va prendre des précautions pour faire croire qu'il est un vrai croyant. Mais au Moyen-Âge, enfin, au XVIIe siècle encore, personne n'a l'exemple d'un personnage qui serait un vrai catholique, mais qui essaierait de se faire passer pour athée pour gagner un bénéfice quelconque. Bon, aujourd'hui, on peut concevoir quelqu'un dont tout dit qu'il est de droite ou d'extrême droite, et qui va essayer de dire « mais non, je suis pas d'extrême droite, je suis pas de droite, faut que je reste de gauche ». Bon, quelqu'un qui est de droite, hein, il va dire « il y a un malentendu ». Mais est-ce que vous trouvez quelqu'un que l'ensemble des médias disent « voilà un intellectuel de gauche », « ah non, non, mais c'est un malentendu, moi je suis d'extrême droite et de droite ». C'est pas possible. Ce qui veut bien dire que dans le système capitaliste développé, c'est revendiquer le discours de gauche qui me met en phase avec le système, et qui explique d'ailleurs pourquoi la droite est en train de prendre bouillon sur bouillon, parce que un capitaliste de droite, entendons là sur les valeurs traditionnelles de conservatisme, réaction, église, ne peut pas fonctionner longtemps à l'époque de la Silicon Valley. Donc, ceci précisé, j'en reviens là, je peux pas me dire de gauche maintenant, je continue à me dire socialiste, mais je fais un appel à tous vos auditeurs pour changer le nom, et je vous signale que tous les mouvements radicaux anticapitalistes qui fonctionnent aujourd'hui ne se réclament pas du mot gauche, m'ont inventé zapatiste au Mexique, Podemos en Espagne, debout en Allemagne. On cherche, et même pendant la campagne présidentielle, Mélenchon propose de remplacer parti de gauche, qui était un des éléments, par France insoumise, pour que le mot gauche disparaisse, non pas au sens d'un reniement, mais pour que le paysan de droite, l'artisan de droite, le petit employé de droite, ou qui est dans l'abstention, ne soit pas repoussé par un mot qui signifie pour les gens maintenant ceux qui sont dans le système. Je donne une dernière anecdote. Un jour, j'étais à Montpellier, encore une fois, et le matin, à l'heure du café, il y a les éboueurs autour de moi, et j'entends les éboueurs parler d'une dernière télé extraordinaire et tout, et il y en a un qui dit « c'est pas mal, elle vaut combien ?»« Oh, elle vaut tant, vraiment, tu devrais l'avoir. » »« Eh, je suis pas de gauche, moi. » J'entends les boueurs dire « je suis pas de gauche » pour dire « je suis pas riche ». Et là, à un moment, on voit que la gauche, c'est Raphaël Glucksmann, on voit que la gauche, c'est tous ces gens qui font les tribunes dans Libé et Le Monde. Et évidemment, si je vais, je peux venir encore une fois à Paris faire un meeting en disant « en tant que représentant de la gauche », et on va m'écouter, mais si je retourne dans les Landes, terre de gauche, il en est, mais avec ce mot, on m'a dit « change, dis-le-nous autrement ».
Mais vous auriez pu conserver, par exemple, une fidélité au Parti communiste. Je parle au Parti, puisque donc là, vous me direz un peu ce que vous pensez de ceux qui persistent à en être. La France insoumise, c'est un autre nom, par exemple. Pourquoi ne pas vous reconnaître
Ah, mais j'ai... Alors, le problème de la France insoumise, c'est qu'elle est travaillée par des contradictions. Elle possède un groupe de députés qui vont dans des directions très différentes. Daniel Ebono, Ruffin, Clémentine Autain du groupe associé, Mélenchon, Corbière. C'est, pour l'instant, ils sont dans une période pré-Podemos où on ne sait pas qui va infléchir le mouvement dans la France insoumise. Mais ce que j'avais trouvé de très bien, j'avais beaucoup apprécié, même si en tant que partisan de la décroissance, je ne retrouve pas encore les idées de la décroissance chez Mélenchon. Il reste pris dans un certain logiciel théorie des stades. Mais j'avais apprécié l'effort de dire « essayons de fédérer le peuple plutôt que rassembler la gauche ». C'est exactement ce que je disais. Sauf que pour l'instant, la France insoumise n'arrive pas en tant qu'organisation à dépasser le stade de la sociologie de Nuit debout. C'est-à-dire que ça reste sociologiquement un mouvement qui englobe plutôt des urbains des classes moyennes. Et là, à un moment ou un autre, le loup se réintroduit par la bergerie. Quand un mouvement est sous l'hégémonie d'une classe sociale qui a sa place, selon moi, dans la rupture avec le capitalisme, mais qui ne peut pas prendre la direction du mouvement. Je peux vous dire, j'ai été marqué en tant que Montpelliérain par la révolution de 1907, qui partait pas de Paris, mais la révolte des paysans du Midi, Marcelin Albert, etc., qui a été une des plus grandes révoltes et qui a disparu de la mémoire collective. Si j'avais un pronostic à faire, si vraiment, dans la décennie à venir, il y avait un mouvement qui mette en danger le capitalisme, il partirait de la France qui n'est pas celle des grandes métropoles, peut-être une fronde des petits maires locaux, des élus locaux et autres, mais ça serait plutôt une révolte à la 1907 plutôt que quelque chose de parisien, étant donné que la sociologie parisienne ne permet plus la Commune de Paris.
Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe dans cette France éloignée des métropoles ?
Il se passe ce que j'appelle le complexe de Détroit. Détroit, c'était la capitale de l'automobile, plus de 2 millions d'habitants. Le régime fordiste d'accumulation du capital se fait sur l'industrie automobile, avec l'idée que ça durera à l'infini. Fin des années 70, le système s'effondre. Détroit est une ville sinistrée avec 600-700 000 habitants. Et là, quand tout ce qui vous permettait de vivre, à l'intérieur des codes du capitalisme, mon emploi chez Chrysler, etc., etc., disparaît, ceux qui restent, ils n'ont plus d'autre solution que de devenir aussi autonomes que possible et de développer autant que possible l'entraide. On va inventer les jardins potagers, les structures collectives. Et ça, ce qui se passe à Détroit, se passe en Inde, dans toutes les régions sinistrées. Et si j'en reviens à la région où je suis maintenant depuis 2 ans, aujourd'hui ça fait 2 ans exactement, et que je ne quitterai plus, parce que c'est à la fois pour moi le paradis sur
terre. Donc les Landes, puisqu'il faut rappeler.
Les Landes, à la frontière des Landes et du Gers. C'est à la fois, je suis dans la beauté absolue d'un monde que le capitalisme a déserté ou n'a pas encore conquis, avec, évidemment, sous les yeux, tout ce que Guilly décrit, c'est-à-dire le premier commerce...
Christophe Guilly. Donc un géographe qui évoque, en fait,
c'est
la France périphérique.
À introduire la distinction France périphérique, France des 15 grandes métropoles, et à l'époque, les sociologues de Paris 8 disent « mais c'est un fantasme ». Alors j'ai choisi d'habiter dans ce fantasme pour vérifier qui avait raison, des sociologues bobos qui disent que les bobos n'existent pas, ou bien de Guilly. Et sur le terrain, j'arrive, donc je m'installe dans un endroit paradisiaque, du point de vue de la nature, mais pas le moindre commerce, pas de transport en commun. Si vraiment je voulais aller en car à la préfecture des Landes, qui est située à 30 km, il faut que je téléphone la veille pour demander qu'un car passe par mon village. Et on me dit, oui, mais ça, ils oublient souvent. Alors, essaie de trouver une autre solution. Donc, les premiers commerces, il faut y aller en vélo, pas désert médical absolu. Là-bas, vous êtes pris dans cette contradiction qui résume toute la dialectique, que les gens ont des conditions de vie qui leur prolongent l'espérance de vie parce qu'ils respirent un air pur et mangent de la nourriture saine. Mais si vous avez une crise cardiaque, là où j'habite, le temps que les secours arrivent, vous êtes mort depuis 1 heure. Donc, ça résume cette contradiction.
On a l'impression que vous êtes installé là-bas un peu comme on s'établissait dans une usine, comme les établis le faisaient.
C'est étonnant. Je me le suis dit souvent. Je repensais au livre de Linhart sur l'établi. Et j'ai dit, mais quelque part, je suis un établi. Sauf que l'établi n'est jamais vraiment épicurien. C'est un homme très sacrificiel. Donc, chez moi, c'était inséparable de... je suis pour la décroissance, mais non, parce que j'aimerais aussi vivre dans un monde décroissant. Quelques témoignages disaient que vers la fin de sa vie, Marx aurait dit « En tout cas, moi, j'aimerais pas vivre dans le socialisme pour lequel je lutte. » Bon, moi, je suis de plein pied. Je pense que nous pouvons, dès aujourd'hui, construire quelque chose qui commence à ressembler à la société dont je rêve.
Merci, Jean-Claude Michéa.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Guillaume Erner avec Jean-Claude Michéa. À voix nue, réalisation Gaël Gillon, prise de son Philippe Mercher, Julien Douminc, coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.